Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Sacha Champy, Émile Grolier et Joséphine Lemaire, nous allons vous parler de la transidentité. Au début de nos recherches, nous voulions faire un reportage sur les effets des hormones sur le corps lors d'une transition de genre. Et en interviewant les experts et expertes, on s'est rendu compte qu'il y a un énorme manque de connaissances et de formation chez les médecins. Donc, on a préféré changer de sujet et s'orienter vers les difficultés d'avoir accès à une transition. La transidentité, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, mais malheureusement, il y a souvent un manque d'informations et on va vous expliquer pourquoi. Dans cette première partie d'émission, on va vous parler du parcours périlleux auquel les personnes transgenres doivent faire face, ce qui est aussi relié au désert médical qui entoure le sujet. Et puis à ça, il faut aussi rajouter la difficulté financière qui reste un enjeu crucial aujourd'hui. Et comme l'explique la docteure Point, psychiatre spécialisée en transidentité, il y a également un problème de santé mentale dû aux enjeux sociétaux d'une transition.
Être une certaine vulnérabilité sur certaines choses, bah, d'une part déjà parce qu'on sait malheureusement que il y a une probabilité plus importante qu'il y ait un entourage un peu plus défaillant autour des personnes en parcours transidentité, et donc du coup tout un tas de difficultés aussi liées à ça, peut-être pas pouvoir se reposer sur son entourage, ou qu'il y ait aussi une séparation à un moment dans le parcours, une rupture de lien, et donc ça on sait que c'est des facteurs de risque de façon générale, mais donc d'autant plus dans un moment où on est déjà vulnérable, que cette vulnérabilité-là se rajoute. Alors, bah voilà, on sait que quelqu'un qui est dans un corps dans lequel qui ne correspond pas à son identité, bah on sait que ça peut entraîner effectivement plus de dépression, de l'anxiété, que ça peut être dans des intensités assez importantes. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on voit et puis qu'on voit évoluer aussi au fur et à mesure du parcours, quand on peut se vivre plus en adéquation avec qui on est et que ça peut être accueilli autour de soi. Voilà, on voit clairement l'impact que ça peut avoir sur comment ces personnes se sentent aussi d'un point de vue psychiatrique, évidemment.
Dans un second temps, nous aborderons le manque de formation du corps médical lié au parcours de transidentité ainsi que l'insuffisance de la recherche scientifique.
Mais avant cela, on aimerait définir quelques notions de base et la première d'entre elles constitue la différence entre le genre et le sexe. Quelle est cette différence, Sacha ?
Alors le sexe, il fait référence aux organes génitaux et au système hormonal qui sont dits masculins et féminins. À notre naissance, on se voit attribuer un genre basé sur l'apparence de nos organes génitaux. Le genre, lui, il est basé sur le sentiment d'appartenance à une identité. La plupart des personnes se sentent appartenir au genre qui leur est attribué à la naissance. Ce sont donc ce qu'on appelle des personnes cisgenres. Et les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre qu'on leur a attribué à la naissance sur la base de leurs organes génitaux, il s'agit des personnes transgenres.
Comment s'effectue le processus de transition chez les personnes transgenres ?
Bien évidemment, c'est un long cheminement personnel qui peut prendre des années. Changer d'identité de genre, c'est propre à chacun. Et chaque personne a ses propres aspirations et envies. Comme nous l'explique Lou, une jeune femme transgenre, chacun commence sa transition de façon différente.
Elle est pour, l'acceptation de soi, on va dire. Et petit à petit, ben voilà, la transidentité est arrivée, mais c'est toujours plus ou moins lié à ce pourquoi j'étais venu à la base, quoi.
Le parcours de transition, c'est-à-dire le processus du changement de rôle de genre, il s'effectue en plusieurs étapes. Mais on tient quand même à rappeler qu'il n'y a pas un parcours tout tracé. Chaque être humain est différent, donc chaque transition est bien évidemment différente. On peut noter qu'il existe trois transitions différentes, la transition sociale, la transition légale et la transition médicale. En ce qui concerne la transition sociale, elle consiste à exprimer son genre, par exemple avec l'adoption d'un nouveau prénom, un changement d'habillement, le port de vêtements spéciaux afin de cacher certaines parties du corps qui ne correspondent peut-être pas au genre de la personne. Ensuite, on retrouve la transition légale qui correspond au changement de genre sur la pièce d'identité. À noter que 52% des personnes trans affirment avoir subi de la transphobie verbale, voire même physique, lorsque leur papier d'identité ne correspondait pas à leur identité de genre. D'ailleurs, depuis 2018, en Belgique, il est désormais possible de modifier son sexe sur sa carte d'identité en faisant la demande à sa commune. Grâce à cette nouvelle mesure, il est plus facile pour les personnes trans de naviguer au quotidien. Et enfin, la transition médicale, elle se compose de deux étapes. On rappelle que toutes les personnes transgenres ne font pas une transition médicale. La première partie de cette transition, c'est l'hormonothérapie masculinisante ou féminisante, c'est-à-dire la prise de testostérone ou d'œstrogène. Cette prise d'hormone, elle va permettre, entre autres, l'apparition d'une pilosité plus importante ou encore une voix plus grave pour un homme trans qui prend de la testostérone, tandis que les œstrogènes, eux, feront grossir la poitrine poitrine et les hanches, donc cela permet une meilleure répartition des graisses et un corps dit sociétalement plus féminin. En revanche, chez les femmes transgenres, la voix ne se modifie pas. La deuxième étape du processus de la transition médicale, elle se caractérise souvent par la chirurgie. On parle donc chez les hommes transgenres de la mastectomie et de la phalloplastie, en d'autres termes, l'ablation de la poitrine et la réalisation d'un pénis. Et pour une femme transgenre, on parle de mammoplastie et de vaginoplastie, en d'autres termes, des implants mammaires et la création d'un vagin.
Et comme on vous l'a dit auparavant, il y a ce qu'on appelle un désert médical sur le sujet, c'est-à-dire qu'il est compliqué par exemple d'avoir un rendez-vous médical, car les délais d'attente sont très longs et les médecins ne sont souvent pas assez formés, comme l'explique le docteur Point.
Je pense qu'il y a probablement une opacité, mais qui est intrinsèque au système de soins, hein, où finalement tout ce qui est un peu spécialisé, à moins d'être à fond dedans, c'est très compliqué de l'extérieur de trouver des informations claires, rapidement, etc. Je pense qu'il y a clairement un besoin de développer des accompagnements et des soins spécialisés. Et donc il faudrait qu'il y ait un encouragement aussi pour les professionnels à se former à la question, à se former aux besoins de cette population-là, pour pouvoir y répondre. Et du coup, que aussi il y ait une accessibilité qui se fasse des soins plus importantes.
Et puis il y a une dimension spatiale à prendre en compte, car certaines zones géographiques sont en manque de professionnels de santé sur le territoire, ce qui a comme conséquence sur le patient ou la patiente de devoir parcourir une longue distance pour consulter.
Ce manque d'accès aux soins s'ajoute aux discriminations que subissent les personnes trans au quotidien. En tant que minorité, au sein de la société, les personnes trans sont particulièrement exposées aux discriminations en raison de leur identité de genre. Le risque de connaître des violences sociales est malheureusement multiplié chez les personnes trans. Sans toutes les citer, l'exclusion sociale, le harcèlement et les violences subies parfois dès le plus jeune âge sont certaines d'entre elles. Plusieurs études ont montré que 50, voire à 90% des personnes trans feront dans leur vie face à du harcèlement lié à leur identité de genre, et au moins 25% d'entre elles seront victimes d'agressions. Ces discriminations ne se cantonnent pas uniquement à l'espace public, elles ont aussi lieu dans la sphère privée. Elle touche également le secteur de l'emploi et du logement, ce qui contribue à la précarisation des personnes trans. L'ensemble des expériences de discrimination et de transphobie joue un rôle au niveau de la santé mentale des personnes trans. Sans être l'unique raison, elle est l'un des facteurs qui explique une plus grande proportion de symptômes dépressifs chez les personnes trans. La notion de tresse minoritaire est apparue pour qualifier des groupes minorisés qui sont stigmatisés ou discriminés. Ce sont les plus à même d'être sujets à une détresse psychologique. Le taux de suicide est fortement supérieur à la moyenne nationale chez les personnes trans. Une étude de l'ULB en 2023 révèle que plus de 40% des personnes transgenres en Belgique souffrent d'anxiété ou de dépression liées aux discriminations et aux difficultés d'accès aux soins. Or, les structures de soutien psychologique adaptées sont rares. Et là encore, les délais pour voir un psychiatre ou un psychologue formé sont interminables. Face à ces réalités, il est essentiel de renforcer l'accompagnement psychologique des personnes trans et de lutter contre les discriminations qui aggravent leur détresse. Un accès facilité aux soins, un meilleur soutien social et des politiques inclusives sont indispensables pour garantir leur bien-être et leur sécurité. Une petite pause musicale maintenant avec une chanson sur le genre du chanteur non-binaire Ezra.
Really nothing anyhow, but
On vient d'écouter le chanteur non-binaire Ezra. Continuons sur le parcours de la transidentité. Quand on parle du parcours de soins pour les personnes transgenres en Belgique, on ne parle pas juste de consultation ou d'opération. On parle d'un véritable parcours du combattant, semé d'embûches, de délais interminables, de barrières médicales, financières, géographiques et administratives. C'est un système qui, aujourd'hui encore, repose trop souvent sur la débrouille, la résilience et surtout sur l'aide des associations de terrain. Commençons par le commencement. En Belgique, pendant longtemps, il n'y avait que deux centres reconnus par l'INAMI, donc l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité, pour accompagner les personnes transgenres sur leur transition médicale. Depuis, ce chiffre est passé à 6. C'est mieux, bien sûr, mais ce n'est toujours pas suffisant pour répondre à la demande grandissante. Ces centres se trouvent à Gand, à Bruxelles, à Charleroi, à Liège, à Anvers et à Louvain. Sur le papier, ça a l'air plutôt équilibré, mais dans les faits, ces centres sont saturés, complètement saturés. Prenons l'exemple de l'UZ, Gand, l'un des plus anciens centres de référence. En 2022, il a accueilli 347 nouveaux patients, mais 932 personnes étaient encore sur la liste d'attente à la fin d'année. Et ce chiffre est en hausse constante depuis 2019. À Bruxelles, l'hôpital Erasme a ouvert le centre Horizon Transidentitaire qui accueille les personnes trans dès l'enfance et propose un suivi pluridisciplinaire. C'est un vrai progrès, notamment dans l'approche non pathologisante, c'est-à-dire qu'on ne considère plus la transidentité comme une maladie. L'accompagnement des patients peut se faire tôt afin de permettre une transition plus fluide, comme l'explique la psychologue Sandrine De Plus.
Autour de 16 ans, donc dans les recommandations internationales, on peut envisager aussi la question d'un traitement hormonal. Et donc dans les jeunes que nous accompagnons, oui, au niveau médical, ce sera surtout une collaboration étroite avec les collègues endocrinologues. Et donc c'est vrai que le rôle du psychologue peut être aussi d'accompagner le jeune dans ce processus d'intervention médicale, ses demandes, ses envies, sa compréhension, donc bien sûr du genre, de son ressenti de genre, mais aussi de certaines interventions, de leurs implications, ce qui est réversible, ce qui l'est pas. Bien sûr, ça c'est un rôle essentiellement du médecin, mais on a aussi un rôle à jouer dans donner de l'information aux jeunes. Nous, on peut avoir le rôle de donner l'information sur la littérature scientifique actuelle. Je pense par exemple au taux de regret, qui est toujours quelque chose qui est fort mis en avant et très repris par les médias quand il y a une des transitions. Et donc, de pouvoir informer par exemple sur le fait qu'il y a en fait extrêmement peu des transitions, et encore en dessous de 3%, et encore que dans ces 3%, finalement, il y a très peu de regrets. Il y a moins de 1% de personnes qui expriment un regret. Il peut y avoir aussi plein d'autres raisons de détransitionner.
Mais là encore, les délais sont énormes. Obtenir un premier rendez-vous, il faut attendre entre 12 et 18 mois. Et pour certaines opérations, comme une vaginoplastie ou une phalloplastie, ça peut prendre jusqu'à 4 ou 5 ans.
C'est un vrai problème, mais alors pourquoi ces délais sont-ils si longs ?
Alors pourquoi ces délais sont si longs ? La réponse, elle est simple, il n'y a pas assez de médecins formés. Pas assez de psychologues, d'endocrinologues, de gynécologues, de chirurgiens spécialisés. Et ceux qui sont là, ils sont submergés.
Ça fait 4 mois que je me suis décidé, mais j'ai vu l'endocrinologue il y a 2 mois. Okay. Et elle m'a fait patienter 2 mois, et je ne sais pas si c'est fait exprès, c'est pour me laisser encore le temps de réfléchir ou pas.
Le nombre de demandes augmente chaque année, notamment parce que la société évolue, que les tabous reculent et que de plus en plus de personnes osent entamer une transition médicale. Mais le système, lui, il ne suit pas.
Et donc ce manque de ressources, il pousse certaines personnes à se tourner vers l'étranger. Les Pays-Bas, la France, l'Allemagne ou la Thaïlande, autant de destinations où les soins peuvent être plus rapides, parfois mieux encadrés et parfois aussi moins chers. Mais attention, partir à l'étranger, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut tout organiser soi-même, la prise de contact, les justificatifs médicaux, les traductions, le financement et surtout le suivi post-opératoire. Et là, un autre problème. De nombreux médecins belges refusent d'assurer le suivi de patients opérés à l'étranger, soit par manque de formation, soit par crainte, soit parce qu'ils ne connaissent pas les protocoles utilisés ailleurs. Résultat, certaines personnes se retrouvent seules, sans médecin référent, après une opération lourde, avec des complications possibles, mais personne pour les écouter. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi ce qu'on appelle donc le désert médical. En Belgique, les centres spécialisés sont tous installés dans de grandes villes, Gand, Bruxelles, Charleroi, Anvers. Mais pour celles et ceux qui vivent en province, en zone rurale, ou dans des régions mal desservies par les transports, c'est une vraie galère. Il faut parfois faire 100 à 200 km pour un simple rendez-vous, ce qui représente du temps, de l'argent et énormément d'énergie.
Et même une fois sur place, l'accueil n'est pas toujours garanti. Une étude menée par Médecins Sans Frontières en 2023 révèle que 13% des femmes trans, 10% des hommes trans et 8% des intersexués ont déjà été refusés pour un traitement médical en Belgique. Et ce n'est pas seulement dans les services spécialisés. Dans les cabines de médecine générale, dans les urgences, dans les hôpitaux, une personne transgenre sur 5 a déjà dû changer de médecin à cause d'une réaction discriminante ou inappropriée. Ce rejet, parfois à peine voilé, s'explique aussi par un manque de formation flagrant. Aujourd'hui encore, les études de médecine n'intègrent quasiment pas les questions liées à la transidentité. Résultat, beaucoup de généralistes ne savent pas comment accompagner un patient trans. Certains refusent même de prescrire des hormones par peur de faire une erreur ou par préjugé. Pour contourner ce manque, certaines associations comme Genre Pluriel, Ex-Echo ou encore le GAMS proposent des formations à destination des professionnels de la santé. Ce sont des formations facultatives, souvent mal financées, et qui ne touchent qu'un nombre limité de médecins. Certains psychiatres, comme la docteure Camille Point, psychiatre spécialisée en transidentité, réfléchissent à toutes ces questions afin d'accompagner au mieux les patients.
Je veux dire que ça dépend un petit peu de là où le patient en est dans son parcours, en fait, hein, mm-hmm. puisque c'est très différent si je reçois quelqu'un en première consultation qui est en questionnement autour de son identité et qui est plus dans un début de réflexion globale et qui est un peu en recherche de comprendre comment être accompagné, etc. Ou quelqu'un qui a peut-être déjà entamé une transition, voire qui est en fin de processus, qui se vit déjà dans son identité au quotidien, etc. Donc ça, c'est évidemment des besoins qui sont très très différents. Et je crois que c'est la première étape, c'est déjà d'essayer de qu'il y ait une rencontre et puis qu'on voit vraiment quels sont les besoins et dans quelle mesure est-ce que c'est moi qui vais pouvoir répondre à ces besoins aussi, ou est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse à un accompagnement un peu plus global, un peu à la carte, quoi, finalement.
On parle beaucoup des aspects médicaux, mais il y a aussi la question financière. Qu'en est-il des remboursements ?
Alors il y a la question sempiternelle de l'argent, parce que oui, les soins de transition ça coûte cher. L'INAMI rembourse certaines consultations et traitements hormonaux dans les centres reconnus. Certaines mutualités, comme la mutualité chrétienne, vont un peu plus loin, notamment pour la logopédie. Mais les chirurgies les plus complexes, vaginoplastie, phalloplastie, mastectomie, peuvent coûter plusieurs milliers d'euros. Et il faut ajouter à cela les soins dits annexes, mais pourtant essentiels, l'épilation laser, les séances de logopédie pour la voix, le suivi psychologique. Ces soins-là ne sont presque jamais remboursés.
Je me rends compte que j'ai énormément besoin d'avoir une expression de genre très féminine, donc de me maquiller, d'avoir des vêtements féminins. Mmh. Sinon, en dehors de ça, en fait, j'ai énormément de mal à me sentir féminine, donc c'est là que je me suis dit qu'il me fallait des changements.
On vient d'écouter un extrait de Lou de Dondecker, jeune femme transgenre qui commence sa transition. On en vient maintenant aux difficultés administratives. Depuis 2018, en Belgique, il est possible de changer son prénom et sa mention de genre à l'état civil sans passer par un diagnostic psychiatrique ni une opération. C'est une avancée, bien sûr. Avant, il fallait prouver sa transidentité par un certificat médical et des traitements hormonaux. Aujourd'hui, la démarche est déclarative. On fait une demande à la commune, on confirme après un délai de réflexion et c'est validé. Mais là encore, des obstacles subsistent, notamment pour les personnes non-binaires. En Belgique, il n'est toujours pas possible d'obtenir une mention neutre du genre sur ses papiers d'identité. Et dans la pratique, de nombreuses démarches, qu'elles soient bancaires, scolaires ou professionnelles, elles restent compliquées. Surtout quand les papiers ne correspondent pas à l'apparence ou au prénom usuel.
Et c'est une avancée, mais il y a encore des limites. Les personnes non-binaires, par exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui ne s'identifie pas pas exclusivement aux catégories de genre comme homme ou femme, ne peuvent toujours pas obtenir de mention officielle pour leur genre. Et dans la pratique, certaines démarches restent longues et compliquées. Bref, il y a du mieux, mais ce n'est pas encore parfait. Heureusement, il y a des associations qui essayent de combler ces manques. Genre Pluriel, par exemple, a mis en place un réseau psychomédico-social, trans et inter-belge. Il permet d'orienter les personnes vers des professionnels formés avec une approche bienveillante. Il y a aussi des groupes de soutien entre pairs, essentiels pour sortir de l'isolement. D'autres associations comme Tel Quel ou Trans Kids Belgium accompagnent également les personnes trans et leurs familles dans leur démarche. Malgré cela, les personnes concernées se sentent extrêmement mises de côté, comme nous l'explique Lou.
C'est que c'est des choses qui arrivent aussi parce que bah, les patients ils me racontent un peu ce qui arrive aussi à leurs amis, les gens qui sont autour d'eux. Et donc on sait que tous les parcours ne sont pas simples. Ce qui est assez clair en tout cas, c'est qu'il est extrêmement difficile de trouver des interlocuteurs dans le système de santé qui sont à l'aise avec ces questions-là, qui sont dans le non-jugement, dans l'accueil, et avec qui les patients peuvent vraiment arriver et aborder sans tourner autour assez directement les choses. Et je crois que c'est très compliqué pour les personnes en parcours de transidentité de savoir où s'adresser. Ça, je crois que c'est une réalité. Avec les centres spécialisés où il y a des délais très 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 importants avant une prise en charge, quoi.
Les experts et les principaux concernés sont unanimes sur la question. Il faut davantage de moyens pour les personnes trans. Et au-delà, un meilleur encadrement du corps médical. Car les difficultés rencontrées pour une personne trans avec les médecins peuvent être nombreuses. Elles prennent différentes formes et ne se manifestent pas forcément de la même manière. Dans cette troisième partie, nous aimerions revenir sur ces difficultés plus insidieuses rencontrées par les personnes trans. Celles-ci peuvent par exemple être des difficultés avec le corps médical spécialisé ou bien un accès difficile aux informations les concernant. Maintenant, une petite pause musicale avec une musique de l'artiste transgenre Kim Petras. Yeah. It's Barbie and it's Kim Petras. I've been trying to give it to you all night. What's it gonna take to get you all alone? I just want you here by my side. I don't wanna be here, baby, all my own. Yeah, don't you wait, don't think about it. Yeah, don't you wait, just come on over now. I've been trying to give it to you all night. What's it gonna take to get you all?
Yes, we brag. We throw jabs. They get dragged. We be like gag. Call a Kim Petty. When I ride it, I ride it steady. Brand new range. I just painted it ready. I set trends from Queens to Beijing. I'm not the one that do the imitating. Puff, puff, pass, cause you know we blazing. When I put it on him, he said it's amazing. All this cake, he doing a tasting. I send shots. Get ready, they may sting. It's Barbie and it's Kim Petras. Main character syndrome, they extras. We ain't answering questions. Click on a b- she finished her sentence.
If you want me, let me know. Tell me now.
On vient donc d'écouter la musique Alone de l'artiste transgenre Kim Petras en collaboration avec la rappeuse Nicki Minaj. Maintenant, reprenons sur le manque de connaissance du personnel encadrant concernant les questions des personnes transgenres. Donc, dans cet accompagnement médical des personnes trans, même quand il y a des centres de prise en charge dédiés, les obstacles ou freins à un suivi adéquat peuvent encore survenir. La création de centres spécialisés, elle ne signifie pas forcément un encadrement optimal. Même quand des centres spécialisés existent, le parcours de soins, il peut s'avérer compliqué. Il y a peu de centres et même dans ces lieux, l'accompagnement peut ne pas être suffisant. On assiste de nouveau à une des caractéristiques principales d'un désert médical. Lors de nos rencontres avec nos différents intervenants, nous avons relevé plusieurs incohérences dans leurs discours. Elles étaient également présentes dans la documentation qui nous a été mise à disposition. Pourtant, nos intervenants sont des experts médicaux faisant partie du Centre Horizon Transidentitaire à l'hôpital Erasme.
Mais en vrai, c'est quoi un expert médical ?
Eh bien, si on se réfère à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, un expert médical est un professionnel ayant une expertise spécifique dans des domaines comme la santé publique, la médecine clinique ou la recherche. Ainsi, comme cette définition l'atteste, les experts sont censés avoir une formation reconnue et fiable. Mais lors de nos interviews, nous avons relevé plusieurs approximations ou erreurs concernant soit la documentation, soit leur discours.
Dans la documentation d'un des hôpitaux à laquelle nous avons accès, nous avons pu lire ceci. Les œstrogènes sont utilisés pour féminiser le corps, pour réduire les traits féminins et augmenter les traits masculins, ce qui est factuellement faux. En effet, le but des hormones dites féminisantes est justement de changer l'expression de genre. Ainsi, quand l'on prend des hormones féminisantes, la plupart des traits masculins disparaissent. D'autres erreurs ont été également relevées lors de nos interviews. Cela concernait notamment les effets secondaires de la prise des hormones. Mais avant de nous intéresser à ce sujet, nous aurions difficilement pu concevoir que même au sein de pôles dédiés, des manques subsistent. Ce manque de connaissance du corps médical peut directement impacter les patients et patientes trans dans leur prise en charge, comme l'explique Lou, jeune femme transgenre en transition.
Bah, je pense que ouais, il faudrait majoritairement plus de financement, à mon avis, pour qu'il y ait beaucoup plus de gens formés, accessibles pour toutes les questions transidentité. Que j'ai l'impression que c'est un peu le début en Belgique, enfin, en tout cas, c'est pas encore optimal, quoi.
Comme le souligne Lou, un autre obstacle rencontré est le manque de documentation sur le sujet. Dans la littérature scientifique, pendant longtemps, s'est posée la question de la place des personnes trans dans la production des savoirs en ce qui les concerne. D'autant plus que pendant longtemps, de nombreux articles scientifiques se sont montrés transphobes en associant la transidentité à une pathologie. La production de savoirs inclusifs destinés à la communauté trans a donc été indispensable. Cela a notamment été l'objet d'études d'un mémoire intitulé « Les pratiques informationnelles scientifiques des personnes trans en France au cours des démarches liées à leur parcours de transition » de Sam Lefebvre. Dans ce mémoire, il est notamment montré que les chercheurs et chercheuses cisgenres, c'est-à-dire dont le genre est celui assigné à la naissance, se sont souvent emparés de la question. Mais pour la communauté trans, les travaux de personnes cisgenres ne peuvent pas suffire à eux seuls. Ils doivent être complétés et enrichis par des sources trans.
Mais alors pourquoi c'est important d'inclure les personnes trans dans une documentation qui leur est dédiée ?
L'expérience vécue des personnes concernées est essentielle pour elles afin de garantir une approche plus juste et éviter une vision extérieure qui pourrait être biaisée. D'où la nécessité de passer des savoirs sur les personnes trans aux savoirs avec les personnes trans afin d'assurer une production de connaissances plus respectueuse et collaborative. Face au manque de documentation et à une méfiance marquée envers les institutions, les personnes trans ont donc développé leurs propres pratiques d'information. En réponse aux violences structurelles des institutions, qu'elles soient sociales, médicales, légales et économiques, une forte entraide s'est mise en place au sein de la communauté. Dans la découverte de sa transidentité, l'apprentissage de connaissances sur le sujet est essentiel pour se construire. L'emploi de mots comme transgenre ou non-binaire est une étape clé dans le parcours de transition. Apposer un mot dessus est souvent la première étape pour prendre conscience de son identité et se reconnaître en tant que personne trans.
Et Émile, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu quel rôle la documentation elle joue dans un parcours de transition ?
C'est hyper important. La lecture de documentation sur le sujet permet de saisir l'ensemble de ce que cela signifie. En parcourant et en s'instruisant sur son identité, on explore ses propres blocages, mais aussi ses aspirations et envies. Les témoignages d'autres personnes trans permettent de se sentir moins seul et d'avancer dans ce cheminement personnel. Des associations de trans ont ainsi vu le jour pour offrir des ressources adaptées et autonomes, sans dépendre des sources jugées fiables par les personnes cisgenres. En Belgique, par exemple, l'association Genre Pluriel joue un rôle clé dans l'information et le soutien aux personnes trans.
Et aujourd'hui, on en est où dans l'accès aux soins de personnes trans, Sacha ?
Alors, même si la Belgique, elle a fait des progrès, le chemin, il est encore long. Entre les déserts médicaux, les délais d'attente interminables, le manque de formation des soignants et les coûts élevés, le parcours de transition, il reste compliqué. Et tant qu'il n'y aura pas une vraie réflexion sur la manière d'améliorer l'accès aux soins, ces inégalités, elles risquent de perdurer. L'enjeu, ici, c'est avant tout d'assurer à chacun et chacune des soins adaptés, sans obstacle inutile. Aujourd'hui, beaucoup de personnes trans font face à des délais d'attente très longs, un manque de professionnels spécialisés et des coûts parfois difficiles à assumer, ce qui pousse certains à chercher des soins à l'étranger ou à renoncer à une partie de leur parcours. Alors, quelle solution ? D'après les experts et les associations, mieux former les médecins généralistes pour qu'ils puissent assurer un suivi de base sans difficulté. Ensuite, renforcer l'offre médicale en Belgique avec plus de spécialistes et des délais plus raisonnables. Et puis réfléchir à un meilleur remboursement de certains soins comme la logopédie ou l'épilation, qui sont souvent essentiels dans un parcours de transition. Mais au-delà de l'aspect médical, il y a aussi un travail de sensibilisation plus large à mener. Parce que les lois, elles évoluent, mais la réalité du terrain, elle met parfois plus de temps à changer. La question qui se pose, c'est donc comment améliorer concrètement l'accès aux soins pour tout le monde de manière plus fluide et plus égalitaire. Les défis, ils restent nombreux, mais le débat est en cours. Reste à voir quelles décisions seront prises dans les années à venir pour faire évoluer la solution. Et avant de se quitter, un petit rappel important. On ne demande pas à une personne trans son prénom de naissance, on ne demande pas ce qu'il ou elle a fait comme chirurgie, et surtout, on ne lui dit pas « Oh, ça se voit pas que t'es trans », parce qu'on rappelle encore une fois que chaque transition est différente et que la transidentité, ce n'est pas un moule sociétal à respecter. On vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.